Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, je suis très touchée de vous partager cet épisode que l'on a enregistré avec Stanislas, mon grand frère. Stan est l'aîné de notre famille et a toujours été un modèle pour moi. C'est pour cela que je l'ai invité au micro des Adultes de Demain pour parler d'un sujet qu'il connaît très bien, celui d'élever des enfants au sein de plusieurs cultures. Stan a deux enfants et ses enfants entendent à la maison tous les jours le français, le chinois et l'anglais. Nous avons donc parlé de son point de vue sur l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge pour ses enfants. On espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stanislas.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Stan.
Bonjour Sylvie.
Alors, on est trop contente d'échanger avec toi aujourd'hui sur un thème en plus qui nous est très important. Donc avant de démarrer sur ce thème des différentes cultures et des différentes langues au sein d'une même famille, j'aimerais quand même que tu nous parles de ce qui t'a marqué dans toute ton éducation Montessori, puisque bien sûr c'est l'éducation que tu as suivie de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc j'aimerais quand même que tu nous racontes ce que tu as gardé de cette expérience.
Bien sûr, avec plaisir. Pour moi, l'éducation Montessori est quelque chose de fondamental que j'ai toujours gardé au travers de moi, que je transmets à mes enfants, mais également à ma femme qui n'a pas été partie de ce système, mais à beaucoup de gens autour de moi. Pour moi, Montessori, avant tout, c'est l'humilité. C'est apprendre à se placer dans un contexte de soi-même, apprendre à se comparer à soi-même, ne pas se comparer aux autres, ne pas être dans la compétition, mais bien toujours se dire que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes dans notre individualité. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a toujours été primordial. J'ai vu tellement de gens autour de moi qui étaient malheureux parce que sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes avaient trop tendance à se comparer à l'autre, n'avaient pas tendance à se placer par rapport à eux, à leurs capacités et à toujours vouloir se déplacer. Ce qui fait que j'ai vu beaucoup de gens autour de moi ou, comme je disais, malheureux ou au contraire, n'allant pas au bout de leur potentiel. Donc, pour moi, c'est d'abord ce côté de centrer sur soi qui est primordial. Ensuite, c'est beaucoup le sens de l'autonomie que je cherche énormément à transmettre à mes enfants. Je pense qu'on est une civilisation où il y a beaucoup de dépendance les uns vers les autres, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de stress. Et une des meilleures manières de faire face à ça, c'est de dépendre sur soi-même. Dépendre de soi-même, savoir faire les choses par soi-même, avoir envie de faire les choses par soi-même, avoir envie d'apprendre, envie de découvrir, envie de sentir, de goûter, de toucher. C'est ce que je vois avec mes enfants qui sont jeunes aujourd'hui, vraiment passer par les sens, la perception, être toujours dans ce côté, voilà, vouloir apprendre de ses mains, vouloir faire, vouloir découvrir de nouvelles cultures, vouloir être au contact de l'autre. Pour moi, ça, c'est primordial. Et donc, vous le verrez aussi par mon parcours, je pense que justement, donc cette autonomie, cette humilité, ça pousse aussi à la curiosité qu'il y a dans le Montessori, de la joie de l'apprentissage, où l'apprentissage n'est pas une corvée, ce n'est pas un travail dans un sens traditionnel du monde, mais vraiment une joie de découvrir, une joie d'apprendre. Et pour moi, c'est ça, le multiculturalisme, le bilinguisme, les langues, c'est des passerelles vers l'autre. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial. Après, pour les choses plus pratiques, plus concrètes du Montessori, c'est apprendre à s'organiser, à se structurer, se faire l'équivalent de to-do list, qui est l'équivalent du plan de travail qu'on avait en Montessori. C'est l'amour des langues. Moi, j'ai commencé en français le matin et en anglais l'après-midi dès l'âge de 3 ans. Même si je faisais mes siestes pendant toute l'après-midi, je me suis quand même bien habitué de la chose. Et je pense que, voilà, ce côté, de la langue, de vouloir apprendre à parler la langue de l'autre, plutôt que, j'ai tellement entendu souvent mon grand-père, qui est d'une autre génération, qui a 95 ans, me dire, mais pourquoi je m'embêterais à parler anglais, les autres ont qu'à apprendre le français. Et moi, je trouve que ça, c'est tellement triste, parce que, aujourd'hui, j'ai une femme exceptionnelle, que j'ai rencontrée aux États-Unis, qui parle chinois, j'aurais pas parlé anglais, on serait jamais rencontrés, on n'aurait jamais eu cette magnifique histoire, on n'aurait jamais eu les enfants qu'on a. Et donc, je pense que, vraiment, ce côté de vouloir apprendre à parler, et moi, c'est ce que je lui enseigne, elle revient en France, elle parle pas français, même juste dire bonjour en français aux gens, ça fait plaisir. Et donc, je pense que voilà, ce côté langue, c'est à tout à fait primordial. Donc, la structure, la langue, et enfin, ce qui est très intéressant dans Montessori et que je vois un peu après, c'est le rapport de l'individuel au collectif. Montessori, depuis le tout jeune âge, c'est d'abord commencer dans son individualité, en disant sur son tapis, avec son matériel, face à soi, mais revenir régulièrement avec le groupe pour échanger. Puis repartir faire son intérêt. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Être capable d'être et dans le travail individuel et dans le travail de groupe, c'est quelque chose qui est primordial pour se développer dans le monde de l'entreprise et au sein de ses études par la suite.
Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous rappeler d'ailleurs rapidement ton parcours professionnel?
Bien entendu. Donc, comme je suis un peu un original par Montessori, donc j'ai pas du tout été forcé par ma mère à avoir 2 ans d'avance. C'est pas du tout quelque chose qui se fait, absolument pas, hein, Sylvie. J'ai pas du tout été mis en concurrence avec ma petite sœur qui est dans la même classe que moi, ça n'a pas non plus été du tout fait, on est tout à fait dans le Montessori classique. Donc comme j'avais 2 ans d'avance et que je n'étais pas d'une extrême maturité, malgré tout le Montessori, on a décidé que c'était préférable que je fasse un deuxième baccalauréat. Et je trouve que c'était quelque chose de très fondamental, ça m'a permis de finir mes examens de langue, ça m'a permis de découvrir l'économie, parce que j'ai d'abord fait un bac S, puis un bac ES, de me poser, et surtout, cette décision aura un impact sur ma vie, c'est que j'aurais toujours eu tendance à vouloir prendre les voies de travers, savoir faire un peu différent. Du coup, ayant en tête d'aller en grande école de commerce, plutôt que d'aller en prépa et de passer 2 ans à la mine, j'ai préféré aller à Dauphine, faire l'université, parce que ça me permettait de voir des gens différents, ça me permettait de continuer à travailler mon anglais et mon espagnol, ça me permettait de continuer à faire du sport, de continuer à voyager plutôt que de m'enfermer pendant 2 ans. Donc, j'ai fait Dauphine, où j'ai eu ma licence, puis je suis rentré en grande école de commerce via les voies parallèles. Et c'est pendant ma grande école de commerce où j'ai découvert ma passion pour la distribution, le retail. J'ai commencé un stage à La Réunion pour le groupe Cahier qui lançait des petites boutiques qui s'appelaient Ultima de jeux vidéo, une franchise. Je suis tombé amoureux du retail et j'ai enchaîné avec un stage pour le groupe Garry Lafayette, où pendant mon année de césure, j'ai passé 6 mois dans l'équipe de compta, puis je suis resté en me débrouillant pour mettre tous mes cours le lundi et mardi de l'école jusque pendant quatre ans. Donc ma dernière année d'école, puis 3 ans supplémentaires, où là j'étais en charge du merchandising, c'est-à-dire du rachat des stocks, du rachat des produits pour les marques d'horlogerie de luxe des Garry Lafayette. Mais encore ce côté montessorien, ce côté un peu découverte, je suis aussi passionné d'informatique. Donc j'ai très vite passé beaucoup de temps avec le département informatique où en plus de mon cœur de métier, c'est moi qui me chargeais du test des applications, c'est moi qui ai lancé les programmes pour tous les tableaux, pour que l'entreprise ait une vision globale de son activité. Après avoir fait 4 ans là-bas, j'avais un regret, c'est que le groupe Galéafette à l'époque était essentiellement francophone et donc je trouvais que c'était un peu dommage de perdre mes langues et de perdre mon multiculturalisme. J'ai donc décidé d'aller faire un MBA à Philadelphie, à Wharton, aux États-Unis. Je me suis absolument éclaté, j'ai retrouvé mon aspect international, c'était très difficile au début, j'ai beaucoup souffert, j'étais le seul français dans une classe de 200, j'ai eu beaucoup de mal parce que même si j'étais bien en anglais, j'avais parti un peu avec la fausse idée que l'Amérique avait une culture très similaire à la nôtre, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est vraiment un monde à part, un monde différent. Et j'ai passé les 3 premiers mois sans aucun français, et quand je suis rentré à la maison à Noël pour voir ma famille, pour vous voir, je parlais plus français. J'étais plus capable d'articuler en français, donc c'était intéressant parce que ça a été vraiment me jeter pour la première fois, moi qui avais été 18 ans Montessori en bilinguisme, mais c'était la première fois que je vivais seul à l'étranger. Et ensuite j'y ai fait 2 années où c'était 2 années exceptionnelles, où j'ai eu des amis américains, canadiens, espagnols, italiens, chinois, vraiment de toutes les cultures. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme en 2e année, Jane, qui est elle origine de Chine continentale. De Shenzhen près d'Hong Kong. Après avoir fini mon MBA, mon but était d'aller continuer à faire du retail, mais plutôt en Chine ou ailleurs, où il y avait de la croissance et du développement, pour voir un peu des choses nouvelles. Mais finalement, je suis tombé sur un ami d'école qui était du Koweït, un Koweïtien, un ami arabe, qui m'a dit que son oncle bossait pour une entreprise qui s'appelle Al-Shaya. Al-Shaya, c'était un très grand groupe de franchises exclusives au Moyen-Orient, dans 22 pays du Moyen-Orient. Ils ont Starbucks, ils ont Victoria's Secret, ils ont H&M. Et j'ai rejoint le groupe Al-Shaya pour gérer leur pôle stratégie et business développement. J'étais en charge de tous les grands projets de l'entreprise sur 3 ans. J'étais également en charge de recruter de nouvelles marques telles que Chloé, telles que Alice et Olivia pour le Moyen-Orient. Nous y avons passé 4 ans et demi. C'était vraiment différent. C'est une culture à part. Le golfe persique est un monde qui était radicalement différent. J'ai découvert d'autres cultures. Beaucoup d'Indiens, beaucoup de Pakistanais, des Jordaniens, des Égyptiens. Des gens de partout dans le monde, beaucoup d'anglo-saxons aussi qui venaient s'expatrier. Mais après 4 ans et demi, nous avons souhaité, puisque nous avions 2 enfants, enfin nous sommes sur le point d'avoir un 2e enfant, il était primordial qu'on soit proche de notre famille. Moi, ma famille était en France, la famille de Jane était en Chine, et donc on a commencé, elle et moi, à chercher du travail en Chine et en France. Et puis finalement, grâce à ma petite sœur, grâce à Stéphanie, j'ai pu intégrer Amazon en mai, où je m'éclate, où j'ai découvert une entreprise internationale, où je travaille avec des Espagnols, des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Français, une très grande diversité, donc je me retrouve complètement sur l'aspect multiculturel.
Ouais, c'est ça, et ça a vraiment toujours, comme on le voit, guidé tes choix de carrière, mais également tes choix amoureux. Est-ce que tu pourrais notamment nous rappeler donc ta famille, combien d'enfants est-elle constituée et quelle langue vous parlez à la maison?
Bien sûr, donc comme je disais, donc il y a d'abord moi, Stanislas, donc moi je parle couramment français, anglais, espagnol et des bases de chinois. Ma femme s'appelle Jane, alors son vrai nom c'est Li Shui-Ting. Elle est originaire du nord de la Chine en fait, de Harbin en Mandchourie, mais elle a grandi à Shenzhen dans le sud. Et du coup, elle parle déjà couramment le mandarin, qui est la langue de Beijing, et le cantonais, la langue de Hong Kong, en plus de parler couramment l'anglais et d'être en train d'apprendre le français. Et donc, nous avons 2 enfants, Alizé, qui est né en août 2018, qui a 2 ans et 4 mois, et le petit Nicolas, qui est né en mars de cette année, l'année dernière, 2020, et qui a 9 mois. Pour nous, il était primordial et extrêmement important que nos enfants comprennent nos langues, parlent nos langues. Donc, depuis le début, je parle en français à la maison exclusivement à mes enfants. Jane leur parle exclusivement en mandarin. Et Jane et moi, nous parlons exclusivement en anglais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors Alizé j'ai eu des inquiétudes dans la famille de certains qui comprennent pas bien ça, mais un enfant international parle plus tard qu'un autre enfant. Et donc, Alizé s'est mise soudainement à parler à l'âge de 2 ans couramment français et chinois. Elle me parle en français à moi, elle parle à Cersei avec Sylvie, avec Stéphanie, sa tante avec Stéphanie. Elle parle chinois avec sa mère, chinois avec ses grands-parents qu'elle voit sur le téléphone via FaceTime. Et elle comprend absolument tout en anglais. Aujourd'hui, elle est en école Montessori, en français le matin et l'anglais l'après-midi. Et voilà, on a une petite fille de 2 ans et 3 mois qui aujourd'hui parle couramment 3 langues.
Comment est-ce que cela s'est passé, le moment où elle a commencé à dire ses premiers mots? En quelle langue c'était?
Alors le premier mot, c'est amusant, ça c'est toujours maman, hein. Et maman c'est mama en chinois, donc c'est assez proche. Elle a plutôt commencé, nous étions au Koweït au tout début, donc on avait tendance à parler beaucoup plus anglais à la maison qu'aujourd'hui. Et sa première, elle avait une nounou qui était anglophone également. Et donc, ses premiers mots ont été en chinois. Et enfin, ça a été maman, ça a été papa. Donc, je sais pas si on peut vraiment attribuer une langue. Elle s'est d'abord développée plus en chinois et puis elle a très vite accéléré sur le français en arrivant en France en mars.
Et vous avez jamais eu d'inquiétude sur le fait qu'elle puisse préférer parler une langue par rapport à une autre ?
Non, c'est pas une inquiétude qu'on a. On a beaucoup d'amis d'horizons multiculturels et dont franco-chinois, dont les enfants, c'est vrai. Alors, ce qui est différent des autres couples, c'est que Jane ne parle pas français, je ne parle pas chinois, donc il n'y a pas une langue qui prend pas sur l'autre. Beaucoup de nos amis, la mère et le père parlent français, même si la mère parle chinois, donc ils préfèrent le français. Mais nous avons une règle très stricte à la maison que nous ne répondons pas dans la langue qui n'est pas la nôtre et nous faisons systématiquement répétaliser dans la langue de la personne à laquelle elle s'adresse. Cela dit, mes amis internationaux m'ont toujours dit que leurs enfants, même tout petits, dès qu'ils voyagent dans un pays ou l'autre, basculent en l'espace de 24 heures d'une langue à l'autre sans problème et d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi leurs cousins n'arrivent pas à parler plusieurs langues.
Ouais, c'est intéressant. Et alors, pourquoi, selon toi, il est primordial de démarrer avec ce bilinguisme dès le plus jeune âge et de vraiment s'y attaquer vraiment dès la naissance de l'enfant et de s'y atteler jusqu'au bout ?
Alors pour moi, c'est, on va même au-delà puisque nous on fait du trilinguisme à la maison, mais pour moi c'est primordial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la plasticité cérébrale. On sait très bien que jusqu'à l'âge de 10 ans, le cerveau n'est pas complètement formé. Et l'ouïe n'est pas complètement formée, elle se fixe après l'âge de 10 ans, et on n'est plus capable de prononcer précisément les sons. Donc apprendre les langues avant 10 ans, c'est la garantie d'être capable de la prononcer parfaitement, sans accent, ce qui est quand même beaucoup plus simple quand après ça on voyage et on parle aux gens. Deuxièmement, je pense que plus on apprend, plus on développe l'intelligence de l'enfant. Le fait qu'Alizée parle deux ou trois langues, ça multiplie déjà son vocabulaire par deux ou trois. En plus de ça, il y a beaucoup de subtilités dans les langues. Et le même mot n'a pas forcément les mêmes nuances, n'a pas forcément les mêmes concepts. Et donc, ce qui est d'autant plus riche, et la chance qu'on a d'être franco-chinois, c'est qu'on vient de deux civilisations qui sont radicalement différentes, qui n'ont pas du tout les mêmes origines. Et donc, on a des concepts culturels attachés à la langue qui ne sont pas du tout proches l'un de l'autre. En France, on est quand même sur une culture judéo-chrétienne, empreinte... enfin, des droits civils de la Révolution. En Chine, on est quand même sur une culture de base confucianiste, avec toute la prague du communisme. Et donc, c'est pas du tout la même mode de pensée, la même mode de discuter. Il n'y a pas de, on a le vouvoiement en français qu'il n'y a pas en chinois. En revanche, eux, il va y avoir quatre manières différentes de s'adresser à une tante ou à un oncle, quand nous, on dit tonton, tata en français. Donc, ça leur permet d'apprendre déjà à mieux communiquer, ça leur permet à apprendre d'autres concepts, de se développer, et ça leur apprend d'autres cultures. Et puis ensuite, surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un enfant, c'est une éponge. Moi, je vois Alizée, là, elle a 2 ans et 3 mois, elle répète tous les mots systématiquement. Et elle apprend à une vitesse qui est fulgurante. Donc, quel gain de temps après, quand, je pense que tous autour de cette table, on s'est rendu compte de le montant d'efforts qu'on doit faire nous en tant qu'adulte pour apprendre une langue, quand à cet âge, mais ça s'imbibe tout seul. Et surtout, le pire, c'est qu'il ne l'oublie pas.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Et est-ce que vous avez eu besoin de lui expliquer que vous veniez de pays différents, de cultures différentes ?
C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais expliqué parce que la notion de culture ou de pays, c'est une construction sociale faite par l'adulte.
Oui.
Pour Alizée, ça va de soi que sa maman parle chinois et son père parle français. C'est pas quelque chose. Alors maintenant, moi, je m'amuse à lui apprendre français, chinois, vraiment le mot, pas dans son assumé, mais dans son de la langue, pour qu'on soit clair et qu'elle comprenne que. Je lui dis, souvent, je lui dis, elle me dit Shangtia. Je dis, mais Shangtia, c'est quoi en français? Elle me répond banane.
Ah oui.
Donc là, c'est important pour qu'elle puisse comprendre. Et maintenant, on lui apprend un anglais. Je dis, mais c'est quoi, what is it in English? Elle me dit banana. Donc, on apprend le concept de langue. On n'a pas vraiment, surtout dans le monde moderne, Alizée, il faut comprendre comment vivre au Moyen-Orient. C'est un enfant qui a eu un passeport à l'âge de 2 semaines et qui, à l'âge de 6 mois, avait été dans 8 pays. Et la majorité de nos amis sont des couples internationaux, franco-canadiens, égyptien coétien, américain français ou franco-chinois. Donc la notion de nationalisme ou de nationalité est quand même beaucoup moins forte dans notre culture, où de toute façon, Alizée et Nicolas sont franco-chinois, et il n'y aura jamais de c'est mieux d'être français, c'est mieux d'être chinois.
Bien sûr. Mais après, vous allez quand même souhaiter leur transmettre des traits culturels spécifiques de chacune de vos cultures.
C'est pas un but. Nous souhaitons que nos enfants soient des expats. Nous ne souhaitons pas que nos enfants soient français ou chinois. Nous souhaitons que nos enfants soient des enfants du monde, qu'ils soient, comme le fait Montessori, complètement adaptables, capables de sauter d'une culture à une autre, d'un pays à un autre, capables de s'établir où ils auront envie de s'établir, de se marier avec qui ils voudront se marier ou pas, d'être complètement adaptables. Bien entendu, on est fiers de certains aspects de nos cultures, mais qui sont des, justement, qu'on ne diffère pas, qu'ils soient français ou chinois, la politesse, bien se tenir à table, bien parler à ses parents, ses grands-parents, être poli, la curiosité, pour moi, ce sont pas des traits nationaux.
Bien sûr.
Ce sont des traits humains, qu'on veut développer.
Ok. Et alors après, pour parler concrètement de l'apprentissage de la langue à la maison, comment est-ce que vous y prenez sur l'apprentissage des lettres, des sons, pour que justement elles se trompent pas d'une langue à une autre?
Alors d'abord, il y a très pratiquement l'immersion totale dans la langue avec le parler à la maison. C'est la première chose qu'on a dans toutes les langues. Il y avait exactement l'effort qu'on faisait même quand j'en étais enceinte de beaucoup parler, alors qu'on parlait pas français à la maison. Moi, je faisais exprès de parler français, je faisais exprès de parler chinois, même quand elle était enceinte, pour que l'enfant entende les phonèmes dans le ventre. Il faut déjà développer son ouïe et son cerveau. C'est la première chose. Ensuite, on a énormément de livres à la maison. Moi, Sylvie me ramenait des livres de France. Jane faisait apporter des caisses de livres de Chine avec les caractères, même s'ils ne savent pas, pour que même qu'ils commencent à s'emprunter des différents visuels qu'on leur montre. Vous voyez, un Calinon, c'est très français. En Chine, ils n'ont pas du tout les mêmes histoires. Donc déjà, ça leur permet de s'attacher à des personnages différents, de cultures différentes. Donc le livre est primordial. Le livre avec des écrits dessus, parce que même s'ils ne comprennent pas, ils voient quand même les caractères, les lettres grecques ou romaines qu'on utilise en français. Ils voient les caractères chinois sur le livre chinois. Donc ça leur permet déjà aussi de comprendre qu'il y a une différence. Ensuite, de manière concrète, on a très vite acheté les lettres rugueuses Montessori, avec Alizé et avec Nicolas, et on les a en pinyin chinois et en français. Il y a quelques différences au niveau des vocables, et on leur fait systématiquement les lettres, d'abord avec la sonorité française, et on fait un temps dédié au français, et on fait que du français, puis plus tard avec leur mère, qu'en chinois, avec la sonorité chinoise, pour qu'ils commencent à se fixer au niveau de l'esprit, qu'ils comprennent bien, et c'est ça qui est passionnant, c'est que on va leur montrer la même lettre, ils vont la prononcer de manière différente avec deux personnes différentes. Ça la dérange pas, ça va de soi.
C'est incroyable. Sylvie, tu veux rajouter quelque chose sur l'apprentissage du bilinguisme dès le plus jeune âge et sur la méthode Montessori?
En fait, la façon dont Stanislas le fait, c'est extraordinaire, puisqu'en fait, elle entend parler dans une langue et dans l'autre, et qu'elle pense dans ces deux langues. Donc, c'est vraiment l'idéal. Et moi, quand je vois Alizée, je suis hyper impressionnée. Quand elle est en classe ou quand elle est avec moi, elle me parle complètement français. Quand elle est avec sa mère, elle répond totalement en anglais, en chinois. Et elle ne mélange absolument pas les deux langues. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et la même chose pour l'apprentissage des sons, des lettres, des couleurs, etc. En fait, elle fait totalement la différence entre les deux langues. Donc, c'est vrai qu'elle peut complètement, elle, apprendre à lire dans les deux langues en même temps, puisque c'est très très clair dans son cerveau, en fait. Et elle pourra apprendre à lire en anglais en même temps, c'est aussi très très clair. Et c'est une enfant qui a un vocabulaire extraordinaire. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, ce qui me frappe avec elle, c'est qu'elle prononce les mots en français parfaitement. Et donc, je pense que vraiment, elle a développé une ouïe extraordinaire. Et donc, elle fait le discernement entre les sons, c'est fabuleux. Donc, elle peut totalement apprendre à lire dans les deux langues, ce qui n'est pas le cas des enfants qui apprennent juste l'anglais à l'école et qui ne l'entendent pas à la maison. Là, il faut un temps, il faut d'abord qu'ils apprennent en français pour être très familiarisés avec les sons en français. Et après, on peut passer aux sons en anglais.
D'accord.
Mais chez Alizée, c'est tellement clair, elle a fait ce travail de synonyme qui est fabuleux, quoi. Donc elle, c'est vrai que du coup, elle a un cerveau qui va très très vite. Moi, je pense que ce bilinguisme développe des connexions entre les neurones bien supplémentaires par rapport aux autres enfants. Parce que quand on voit la concentration, la rapidité d'apprentissage, c'est absolument extraordinaire. Donc c'est extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est extraordinaire.
Et Stan, est-ce que tu penses tout de même que ça vous demande beaucoup de travail d'arriver à suivre cette méthodologie que vous avez mis en place à la maison avec le français d'un côté, le chinois de l'autre, plus essayer de lui apprendre en même temps l'anglais. Est-ce que tu dirais que ça vous a demandé un effort particulier ou non?
Alors, moi, je dirais d'abord que bien vouloir s'occuper de ses enfants, c'est énormément de travail, de toute façon.
Oui.
Encore plus aujourd'hui qu'avant, puisque aujourd'hui, il suffit de les foutre devant la télé, devant un écran. Mmh. Ils n'étaient pas avant. Après, on devait les mettre dehors, on avait d'autres choses à faire, il n'y avait pas ces tentations. Donc, quand on veut bien faire, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on pourra peut-être faire un autre podcast sur l'apprentissage du sommeil qu'on a fait avec Alizé, ou l'alimentation. Ça a été un travail. Pour moi, c'est pas dur pour nous de faire plusieurs langues, parce que c'est naturel. Pour moi, le plus dur et le plus épuisant, c'est le scepticisme et l'incompréhension des autres. C'est devoir se justifier à mes grands-parents ou aux gens autour de nous de pourquoi on voudrait que nos enfants soient multiculturels, pourquoi est-ce que nos enfants devraient parler plusieurs langues. Il y a tellement de gens qui nous racontent des inanités, comme quoi il suffit de parler que français, comme quoi notre enfant ne parlera jamais, parce qu'à un an et demi, il n'est pas en train de parler couramment, il est en train d'ingérer trois langues. Des gens disent, mais pourquoi vous faites ça, à quoi ça sert, pourquoi vous perdez votre temps sur ces trucs-là, c'est pas plus simple qu'on parle que français et puis se développera plus tard. Et aussi, des gens qui vous disent, ah ben, il sera pas français, vos enfants seront pas français. Et alors, ça, c'est, pour moi, c'est ça qui vraiment me, et je suis désolé si je parle un peu émotif, mais vraiment me fatigue, et c'est ça qui est épuisant, c'est de savoir se justifier sans cesse. Mais moi, ce que je sais, c'est pour avoir beaucoup d'amis, et moi, ce qui m'a le plus impressionné, parce que, même si on était en Montessori, c'était quand même assez un environnement français, la grande majorité de mes amis de Wharton, qui ont les plus grandes vies au monde, sont tous des enfants bilingues internationaux. Tous. Et la majorité des gens qui réussissent à échanger international sont tous des bilingues. Parce que,
bien sûr,
beaucoup plus jeunes que les autres, à 24-25 ans, ils ont été confrontés à beaucoup de cultures différentes, beaucoup de problématiques différentes, ils ont voyagé, ils ont vu d'autres choses, ils ont appris d'autres choses, et ça donne une richesse qui est énorme. Mais c'est vrai que, et je le dis à tous vos auditeurs, accrochez-vous. Enfin, ayez foi. Ça va être difficile, surtout. Moi, je trouve que c'est encore plus touchant si vous êtes des gens qui êtes tous les deux français et qu'il y en a un qui fait l'effort de ne parler que qu'anglais, qui ne parle plus sa langue. C'est encore plus difficile.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu conseilles même de mettre cela en place pour des deux parents qui sont français, d'en avoir un des deux qui parle qu'anglais à l'un de ses enfants?
Je le conseille si jamais le parent parle couramment anglais. Parce que, à commencer jeune, si on peut aussi en magasiner des erreurs. Parce que l'enfant, il va l'intégrer. Donc, si vous parlez couramment anglais, si vous avez des gens autour de vous qui parlent couramment anglais, faites-le. Après, il y a plein d'autres opportunités maintenant sur les réseaux sociaux de trouver, même autour de vous. Moi, je vois ma femme, elle trouve un nombre de Chinois en France absolument hallucinant. Il y a des tonnes d'expats anglo-saxons, anglophones. Faites-vous des amis qui parlent anglais et que vos enfants voient d'autres. Je pense que à part tout, il faut faire... Mais si vous parlez anglais correctement, même si vous avez un accent, c'est pas grave, l'accent, ça se corrige, faites-le. C'est difficile, vos proches vont vous casser les pieds, mais quand vous aurez un enfant qui arrivera en maternelle ou en primaire, qui parlera couramment deux langues, mais vous vous rendez compte de à quel point ça vaut le coup.
Ce que je voulais rajouter aussi sur le fait que qu'il était important que Jane, par exemple, parle chinois et toi français, c'est qu'il est fondamental de parler sa propre langue. Moi, j'avais eu un rendez-vous une fois avec une maman chinoise qui n'avait jamais parlé chinois à ses enfants. Et elle était extrêmement frustrée parce que elle n'arrivait pas à exprimer vraiment ses émotions, ses ressentis, etc. Donc, je pense que quand on a deux langues, comme vous avez chez vous, c'est fondamental de parler sa langue maternelle. Parce qu'on c'est la langue dans laquelle on peut le mieux exprimer ce qu'on ressent vraiment. Et pouvoir le transmettre à ses enfants, c'est fondamental. Donc je pense que c'est vraiment très très important de faire cet effort de parler sa langue et de tenir le coup si l'enfant répond en français. Moi je vois Jane parfois, maintenant Alizé elle a tendance à répondre en français puisqu'elle est en France, et Jane systématiquement elle reprend en chinois, et je trouve ça super parce que aussi c'est l'occasion pour Jane de pouvoir parler chinois toute la journée avec quelqu'un aussi. Et ça c'est très important d'avoir un échange avec quelqu'un dans sa propre langue. Donc, ça développe beaucoup plus de choses encore, même la transmission de la culture chinoise, elle se fait beaucoup par la langue. Et si Jane n'avait pas parlé chinois, elle aurait beaucoup moins pu transmettre cette culture. Donc c'est vraiment c'est une enfant qui a la chance d'avoir deux cultures et c'est forcément une richesse et on la transmet beaucoup justement en parlant sa propre langue et en restant soi-même quoi.
Tout à fait. Et est-ce que Stan, tu trouves que cela a développé chez ta fille et bientôt chez ton fils d'autres choses d'entendre toutes ces langues, donc en dehors du fait qu'ils vont avoir cette arme toute leur vie de pouvoir s'exprimer avec plein de monde et de comprendre plein de cultures différentes, est-ce que tu vois déjà des choses dans son comportement qui ont été influencées par l'apprentissage de ces langues dès le plus jeune âge?
Voilà, je pense que c'est ce dont Sylvie a parlé, ce qui est hallucinant, enfin, enfin, moi ça me surprend pas, elle est comme ça ma fille, mais Sylvie est au contact de plus d'enfants que moi. Mais c'est son élocution en français qui est extraordinaire. Alizée, à 2 ans, parle comme un adulte en français. Et c'est la même chose en chinois. La prononciation est exacte. Il n'y a pas d'annonnement quand on entend de zozonnement. Ça n'existe pas. Et elle apprend les mots et elle les prononce parfaitement la première fois. Et il n'y a plus besoin de la corriger.
Elle déforme un mot.
Absolument. Voilà. Donc elle déforme pas. Donc c'est quelque chose de direct. Je pense que son oui, a été impacté. Et là, je vois, c'est marrant, son petit frère, qui est quand même pas le même, hein, il est différent. Lui, il est fasciné par la musique. Et dès qu'il entend de la musique, il danse, il chante, je pense que c'est des enfants dont l'ouïe aura été mieux développée parce que ce qui est très difficile, c'est qu'il faut qu'ils apprennent qu'un P et un P n'est pas forcément le même son dans deux langues.
Bien sûr.
Et ça demande une précision de l'ouïe qui est extraordinaire. Je pense que c'est quelque chose au-delà de l'habilité de parler, et puis, mais aussi c'est de maman. Enfin, c'est amusant parce qu'ils sont quand même en train de parler avec des grands-parents français et chinois, donc il y a aussi l'aspect culturel, multiculturel, elle me parle tout le temps de sa cousine qui vit à Bordeaux. Enfin, ils ont cette espèce de notion de, il n'y a plus de géographie, ils parlent aux gens dans plein de cultures, ils sont très adaptables, ça viendra après. Mais je pense que Louis est quelque chose de très très différent avec un enfant qui parle plusieurs langues.
Super intéressant. Et je pense aussi, et ça Sylvie pourra également témoigner, c'est que ça fait aussi des enfants avec une ouverture d'esprit importante. Et je pense que ça reboucle avec ce que Stan tu disais au début, c'est que je pense que c'est des enfants aussi qui seront moins dans la comparaison parce qu'ils auront déjà vu des choses déjà très très différentes dès le plus jeune âge.
Ils ont leur propre identité en plus. Ils ont elle a une identité qui est différente de celle des autres. Donc elle a déjà elle est elle-même, quoi. Elle peut pas se comparer à un autre, hein. C'est pas possible. Il n'y en a pas deux comme elle, quoi. Ce sera difficile de trouver deux comme elle.
Bien sûr.
Donc, elle développe sa propre, son côté unique.
Tout à fait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Stan. On arrive à la fin de cet entretien. Donc, moi, j'aime souvent bien poser cette dernière question. C'est est-ce que tu aurais des derniers conseils à donner à des parents qui s'apprêtent à avoir des enfants et qui ont envie de se lancer dans le bilinguisme? Est-ce que tu aurais des conseils, que ce soit pratique ou non, hein, mais à leur donner pour, en tout cas, leur donner confiance dans cette aventure pour leurs enfants?
Déjà, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de s'accrocher, c'est de vraiment décider quel parent parlera quelle langue et s'y tenir. Vraiment se poser la question de est-ce que vous êtes prêts, si vous êtes deux francophones, à sacrifier votre langue? Parce que c'est dommage de commencer et d'arrêter, donc il faut vraiment faire preuve de conviction. Donc si vous avez vraiment envie de faire ça, faites-le. Après, servez-vous de beaucoup de livres. Le livre c'est facile, les enfants adorent les histoires. Il y a aussi quelque chose qui est très facile. Alors moi je sais, en théorie il faut pas leur montrer d'écran, mais nous malgré tout, comme on voyageait beaucoup, on sait pas mal servir d'écran et on a systématiquement entendu les cartoons en anglais. Donc ça leur donne aussi accès à une langue supplémentaire en plus de vous, donc ça leur permet aussi d'avoir la plasticité du cerveau, je pense, qui aide. Donc pas hésiter à mettre des Disney ou des choses comme ça en anglais, je pense que ça aide. Et après, accrochez-vous, n'écoutez pas les autres, il faut savoir, soyez prêts, qu'un enfant élevé en bilingue ne parlera pas avant 2 ans, ou très peu. Donc ne soyez pas frustrés, ne soyez pas surpris, accrochez-vous, parce qu'à 2 ans, ça va exploser. Et du jour au lendemain, il y aura plus de retard, même si votre enfant aura de l'avance sur les autres. Voilà, c'est ce travail de conviction. C'est acheter plein de livres dans plein de langues pour vous donner du matériel. Et surtout, c'est ne jamais, jamais, jamais lâcher. Si l'enfant vous répond en français, vous continuez en anglais. Il faudra faire ça pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Mais je pense que la récompense est énorme. Si vous n'êtes pas prêt à le faire vous-même, sachez que d'autres peuvent le faire pour vous. C'est ce qu'on disait. Trouvez une fille au père qui soit anglophone. Mettez-les dans des écoles bilingues dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, moi, je parle couramment anglais et mes parents ne parlaient pas anglais à la maison du tout.
Mmh. Donc, il
y a aussi d'autres solutions et je pense qu'il faut être très pragmatique. Demandez-vous si vous pouvez le faire, si vous êtes convaincu de pouvoir le faire, sinon trouvez d'autres solutions ou trouvez d'autres manières de pallier à ça.
Super, ben merci beaucoup Stan, c'était passionnant. J'ai adoré pouvoir échanger avec toi sur ce podcast. Donc merci beaucoup pour ton temps et pour ce partage passionnant.
Merci Stéphanie et merci Sylvie, ça fait très plaisir de se retrouver avec sa petite sœur et sa maman des années plus tard. Échanger sur des sujets aussi passionnants et aussi différents, et surtout n'hésitez pas, j'adorerais venir échanger sur d'autres sujets avec vous.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.